Nous sommes mercredi 31 août 2022 et vous suivez en direct les programmes du studio Kalangou. L'édition de 17h, c'est avec Rouquette Abdraman. Au sommaire, la 20e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée ce 31 août sur le continent. Au Niger, les tradis praticiens travaillent en collaboration avec les médecins pour traiter certaines maladies, selon le secrétaire général de l'association des tradis praticiens de Maradi. Les migrants du centre de transit de l'OIM d'Agadez ont manifesté hier et aujourd'hui dans les rues de la ville. Ils réclament leur rapatriement rapide dans leur pays d'origine. Le chef du sous-bureau OIM Agadez est à suivre dans un instant. La montée soudaine des eaux du fleuve Niger a atteint la côte de près de 6 mètres, d'où l'alerte orange. Un expert de l'autorité du bassin du Niger donne des explications. Ça sera en partie magazine de cette édition. Bonsoir fidèles auditeurs, merci de nous recevoir. Comme annoncé, le Niger célèbre ce 31 août la 20e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème retenu, deux décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique. À Maradi, ils sont nombreux ceux qui se réfèrent à cette médecine pour traiter leurs maladies selon le secrétaire général de l'association des tradis praticiens. Cela Manhabou d'indiquer aussi qu'ils entretiennent une étroite collaboration avec la médecine moderne. Il est au micro de Mohamed Mama.
Quand on parle de la médecine traditionnelle, c'est une manière de traiter donc les maladies et en base de la tradition quoi. Donc utiliser les plantes, les écorces, les racines, les feuilles, etc., etc. Les maladies qu'on peut traiter à travers la tradition, il y a les hémorroïdes, il y a les diabètes, il y a les tensions, il y a les gonos. La place qu'elle occupe dans ce monde-là, c'est une place très très importante parce que même le modernisme a utilisé un peu la tradition aussi. Nous avons reçu beaucoup de formations avec les médecins, surtout sur le traitement des maladies tropicales négligées, donc notamment le paludisme, c'est d'autres maladies-là, donc qui sont toujours fréquemment dans le pays. Bon, seulement le problème n'est que c'est le dosage. Et ce dosage-là, c'est ça qui nous manque jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vraiment quelque chose de plus important qui va nous permettre de savoir quoi. Mais seulement dans le traitement, on sait comment on arrive à le faire. D'autres, eux, ils donnent seulement.
En cette période de saison des pluies au Niger, le paludisme et la malnutrition sont les deux maladies les plus fréquentes au centre de santé intégré de Yekoua dans le département de Magaria, région de Zender. Comment se fait la prise en charge? Moussa El Hadj Harou, le responsable du CSI de Yekoua, explique au micro de Zara Boukar.
Le CSI de Yekoua, c'est un CSI de type 2. Il a une population de 35 454 habitants. Nous avons 5 cases de santé toutes fonctionnelles. Pour le moment, la maladie la plus fréquente, c'est le paludisme. En moyenne, par jour, on consulte plus de 100 patients par jour pour le moment. Et maintenant, c'est la période de soudure et à la malnutrition qui vient en deuxième position. Il y a les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. La prise en charge du paludisme, c'est selon le protocole du paludisme. Quant au cas de paludisme grave, on les met en observation. Si ça dépasse 48 heures, donc on les réfère au niveau du district sanitaire de Magaria.
Parlons toujours du paludisme. Des journalistes de Niamey, Tawa et Dosso sont en formation hier et aujourd'hui à Dosso dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Dr Idrissa Sabiti, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, souligne que chaque composante au Niger doit jouer sa partition pour lutter contre cette maladie. Il est au micro d'Aoussi Abdraman.
Je dis que toutes les composantes de la population du Niger ont leur rôle à jouer. Que ce soit le politique, que ce soit les populations, les communautés, les journalistes, les enseignants, tout le monde a sa part de responsabilité. Et donc, comme je le dis, c'est votre tour aujourd'hui, nous devons un peu discuter avec vous sur le paludisme.
Nous allons cette fois-ci évoquer une autre maladie. Il s'agit du COVID-19. 15 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Diffa au cours de cette dernière semaine du mois d'août. Selon le directeur du district sanitaire, le retour de cette maladie est dû au manque de vigilance des populations sur les gestes barrières à observer. Il appelle aussi la population à se faire vacciner. Dr Moussa Abdoulaye, directeur du district sanitaire de Diffa, au micro de Guidi Abdrahman.
Aujourd'hui, nous sommes à 15 cas. positifs testés qui sont sous traitement. Nous avons 12 cas au niveau du département de Diffa et 3 cas au niveau donc, du département de Ngigimi. Mais c'est des cas simples, il n'y a pas eu de cas graves. C'est de dire que nous avons vu pratiquement la maladie avait disparu à un certain moment parce qu'il y avait une rigueur dans la lutte contre la maladie à travers l'observance des mesures barrières, à travers la vaccination. Mais à un certain moment, nous avons baissé la garde comme si la maladie était finie. Cela veut dire que nous sommes vraiment appelés, chacun d'entre nous, à revenir à l'observance des mesures de lutte contre la maladie donc de la COVID-19, mais aussi et surtout pour ceux qui se sont vaccinés, qui n'ont pas complété leur vaccination, de compléter leur vaccination, et surtout ceux qui ne sont pas vaccinés, de se faire vacciner pour se protéger contre la maladie.
Partons à Agadez où les migrants du centre de transit de l'Organisation internationale pour les migrations OIM ont manifesté les 30 et 31 août pour réclamer de meilleures conditions de vie et l'accélération du processus de réintégration dans leur pays d'origine. Suite à ces manifestations, un début de solution semble avoir été trouvé. Selon Oscar Safari, chef du sous-bureau OIM Agadez, il est au micro d'Anissé Karim.
Nous continuons à assister nos bénéficiaires à Agadez. Voilà, il y a quelques soucis, bien sûr, d'assistance à la réintégration dans leur pays de retour. Et nous sommes en train de gérer cela avec les pays d'origine, avec les donateurs, avec le gouvernement de la République du Niger. Et cela, je crois, c'est réglé à l'amiable et ça va aller. Et nous travaillons toujours pour les retours dans toute la dignité de nos bénéficiaires. Rien n'a changé. Continuons à les assister. Il n'y a pas que ici, nous en avons à Samaka, à Arlit. En tout, nous avons plus de 4194. Dans toute la région, même à Dirkou, et nous travaillons d'arrache-pied pour continuer à les assister.
Sur un tout autre plan, en début de semaine, il a été observé un mouvement important de pêcheurs du lit du lac Tchad vers Diffa. Ce mouvement est consécutif à un ultimatum adressé aux pêcheurs par les présumés éléments de Boko Haram selon des témoignages recueillis par notre correspondant. L'un d'entre eux, sous le couvert de l'anonymat, décrit la situation sur le lit du lac Tchad. Il est au micro de Guidi Abdrahman.
Tous les pêcheurs ont été chassés. Tous ceux qui ont survécu sont en train de quitter. Moi-même, j'ai perdu 3 de mes proches. Ce n'est pas joli à voir, la façon dont les gens sont en train de partir. Ça fait pitié. Ils quittent sans leur bien. On doit leur apporter assistance, vraiment. Ils n'ont pas d'argent pour payer les frais de transport. Et puis ces frais ont augmenté. En plus, ils ne trouvent pas de véhicules au moment où ils veulent. Encore, du fait qu'il y ait un problème de réseau téléphonique, ils ne peuvent pas appeler pour informer leurs parents de leur situation. À Kabalewa et à Kirchandi, si vous voyez comment les gens quittent sur des charrettes avec leurs enfants et leur bétail, ça fait vraiment pitié.
À Zender, le guide pratique sur le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics ainsi que les techniques d'écoute à l'ordre du jour d'une formation organisée en début de semaine par le Mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR avec l'appui du programme d'appui à la bonne gouvernance Pagode. Cette formation de 2 jours est organisée à l'intention de 30 acteurs de la société civile de 3 communes, à savoir Tanout, Olelewa et Zenderville. El Hadj Sadat Iliadoma, coordonnateur du MPCR de Zender, est au micro d'Ali Keita.
C'est un guide que le MPCR a élaboré avec le soutien de ses partenaires. L'élaboration des guides étant faite, il faut les mettre à la disposition des acteurs à tous les niveaux de la pyramide de gouvernance, c'est-à-dire au niveau des régions et au niveau des communes, donc des collectivités territoriales. C'est d'approprier les acteurs de la société civile du contenu de ces guides afin de mieux assurer leur mission de contrôle citoyen de l'action publique. À la fin, nous souhaitons que l'ensemble des personnes puissent pratiquer ces guides-là, l'utiliser dans leur travail quotidien de suivi de la gouvernance au niveau de leur commune.
Du sport pour la suite de ce journal, le stade Général Saint-Kounté de Niamey est le plus grand au Niger. Il est le fruit de la coopération sino-nigérienne. Seulement depuis quelques mois, ce stade est suspendu par la CAF pour non-conformité. Les matchs internationaux ne sont plus joués. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a visité l'infrastructure dans la perspective de sa rénovation. Ar Issaka Ousmane, le directeur général du stade Général Saint-Kounté, après la visite de l'ambassadeur, il est au micro de l'Aïla.
Cette visite rentre effectivement dans le cadre du processus de remise à niveau du stade Général Saint-Kounté dans son ensemble et par rapport aux exigences des instances internationales footballistiques, notamment la CAF et la FIFA, qui ont évalué un certain nombre d'infrastructures sportives, notamment les stades de foot. Le stade Général Saint-Kounté ne répondait pas totalement aux normes. Donc nous avons été instruits pour voir les niveaux des travaux qui sont exigés et qui sont nécessaires au stade. La partie chinoise a été contactée et l'accord des principes a été obtenu et la Chine s'est engagé à renouveler les stades. Donc logiquement, les travaux de rénovation qui concernent la pelouse du stade d'honneur principal concernent également le terrain annexe, ainsi que le palais des sports, communément appelé palais du 29 juillet.
Du sport, toujours, l'athlète nigérienne Amina Seni a fini deuxième hier sur la piste des 200 mètres au World Athletic Continental Tour qui s'est tenu en Suisse. Plusieurs athlètes internationaux ont participé à cette rencontre sportive. Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. Alerte orange sur le fleuve Niger suite à une soudaine montée des eaux en début de la troisième décade du mois d'août. Cette soudaine montée fait suite aux dernières fortes pluviométries enregistrées dans les sous-bassins en amont du fleuve selon les experts. Cette montée mérite une vigilance accrue des autorités et des riverains, explique Kone Sungalo, expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger ABN. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Il faut dire que depuis le 25 août 2022, nous sommes au niveau de la station hydrométrique de Niamey, au seuil de l'alerte jaune. Cela signifie qu'il faut être vigilant. Depuis le 29 août 2022, nous avons franchi le seuil de l'alerte orange. Et pour nous, le seuil de l'alerte orange demande un peu plus de vigilance, surtout renforcer l'observation et aux autorités locales préparer déjà les sites d'accueil au cas où il y aurait des montées brusques de l'eau pour atteindre l'alerte rouge.
Alors, quel est le niveau de l'eau comparé à la situation de l'année dernière à la même période?
Faire une telle comparaison ne donne pas une information pertinente pour préparer au mieux la gestion de cette période assez critique. Il faut dire que, en la matière, il y a des seuils de vigilance qui sont caractérisés par des codes couleurs, l'alerte jaune, l'alerte orange et l'alerte rouge. C'est par rapport à ces seuils-là que les décideurs peuvent orienter leur politique.
À quoi doit-on s'attendre dans les jours ou mois à venir?
Il faut dire que cette crue locale que nous observons en ce moment peut aller jusqu'en fin septembre, début octobre. La période critique, c'est actuellement, donc fin août et début septembre. C'est cette période-là qui est critique. Et à partir du mois de septembre, nous allons entrer dans la phase de la crue guinéenne qui, elle, est beaucoup plus maîtrisable.
Alors, quels conseils ou recommandations pour les riverains du fleuve Niger?
Oui, il faut dire que l'autorité du bassin du Niger n'agit pas directement sur les populations. Cela est du ressort des autorités locales. Cependant, l'ABN, à partir de ses outils de modélisation, produit des informations pertinentes pour orienter les politiques nationales afin d'améliorer donc les prises de décision.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, vous aurez une rediffusion du forum sur le thème collaboration entre médias et FDS pour une meilleure gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. Présentation Nafisa Adamou Sirfou. Je vous laisse en compagnie de Habiba Ahmed pour l'édition en tamashek. Très bonne suite de réception et au revoir.
À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangour.